Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro. Je vous accompagne au cours de toute la semaine, mais on commence par aujourd'hui, lundi, pour ces 30 prochaines minutes. L'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Vous dire d'abord qu'il y a plusieurs raisons qui font qu'une personne âgée est plus à risque de souffrir d'isolement, de souffrir de solitude également. On peut penser à la perte d'autonomie, la perte d'un conjoint, le mode de vie qui change hein, lorsque l'on quitte notre résidence pour un foyer d'accueil pour personnes âgées, entre autres choses. Il y a aussi la peur de sortir et de tomber, de se blesser, notamment en cette période hivernale, hein, lorsque la chaussée est glacé, lorsqu'il fait froid. Comment on peut briser l'isolement de la personne âgée en évitant tous les impacts négatifs pour cette personne et aussi pour toute sa famille? J'en parlerai en deuxième partie d'émission avec Benoît Carrière, lui, organisateur communautaire. Et puis, vous rappelez que nous sommes à deux jours de cette vaste campagne Belle cause pour la cause, une initiative nationale qui vise à briser tous les tabous qui sont liés à la santé mentale, à aussi encourager les gens à en parler sans gêne, sans honte et aussi à favoriser le financement de différents projets qui vont venir en appui à cette cause. Une œuvre qui est plutôt utile au Québec parce que les chiffres sont encore assez inquiétants. On dit qu'une personne sur quatre vivra avec un problème de santé mentale au cours de sa vie et les dernières données aussi liées au suicide sont toujours assez inquiétante. Plus de 1100 personnes s'enlèvent la vie chaque année au Québec. Ça, c'est 3 personnes par jour. Donc, un chiffre assez révélateur. Au Canada, ça serait 11 personnes par jour. Qu'est-ce que la santé mentale? Parce que pour comprendre la maladie mentale, il faudrait peut-être commencer par le début, hein, savoir qu'est-ce que la santé mentale. J'en parle avec Claude Leblond, travailleur social et président de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Claude Leblond, bonjour.
Oui, bonjour.
Claude Leblond, merci d'abord d'être avec moi ici en studio. On parle de plus en plus depuis les dernières années de maladie mentale et c'est une bonne chose parce que ça sert à enlever les tabous, enlever tout ce dont je parlais en introduction, c'est-à-dire minimiser les tabous, la gêne, la honte liée à la maladie mentale. Et on est de plus en plus apte à identifier des symptômes, comprendre la dépression, les troubles anxieux, l'épuisement professionnel, et de dire « Oh, peut-être que mon proche, peut-être que moi, je suis à risque. » Mais on ne sait pas c'est quoi les symptômes, et là, bien sûr, je mets des guillemets, de la santé mentale.
Oui, on ne parlera pas de symptômes à ce moment-là, effectivement, parce que ce n'est pas en soi une maladie, au contraire. Et c'est bien de se rappeler, dans le fond, que l'Organisation mondiale de la santé définit la santé mentale comme étant un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie et accomplir un travail productif et contribuer ainsi à la vie de sa communauté. Ah. Alors, c'est quelque chose de beaucoup plus large permet à une personne d'être bien et heureuse dans sa vie avec les éléments qu'elle considère importants. Alors, c'est le fondement du bien-être d'un individu et d'un bon fonctionnement en société.
Mais est-ce qu'il est possible, Claude, d'être toujours dans cet état de bien-être? Parce qu'on peut être une journée un petit peu moins bien dans notre assiette, mais en même temps, avoir une bonne santé mentale.
Oui, tout à fait. Là. Alors, entre la définition qui vise un état de quasi-béatitude, on parle vraiment de bien-être. Là. Alors, on n'est pas là dans... on peut avoir des moments là, dans la journée ou dans la semaine dans lesquels on cherche là, à être plus heureux et c'est tout à fait normal et on n'a pas en soi un problème de santé mentale à ce niveau-là. Là. Mm-hmm.
On en parle de plus en plus de santé mentale ou de maladie mentale. Une bonne chose, je pense. Pourquoi on n'en parlait pas du tout avant, il y a 15-20 ans, à peine?
probablement à cause de ce que vous avez nommé en début d'entrevue, là, toute la question de la stigmatisation hein, qui était portée sur les gens là, qui avaient un comportement très différent ou qui semblaient d'un autre monde, une honte là, chez les entourages dans la famille. On en parle plus probablement aussi parce que, bon, d'une part, on la connaît mieux, la maladie, les différentes maladies mentales. On a pu mieux connaître à la fois les troubles anxieux, que vous avez nommés tantôt, la dépression, l'épuisement professionnel, ces éléments-là. On a aussi pu chiffrer davantage l'impact sur l'absentéisme au travail, par exemple, ou les différents impacts économiques de ces différents troubles mentaux. Et ainsi, bien, ça les rend, ça fait en sorte qu'on en parle plus socialement tous ensemble. Et tout en relativisant les choses, alors qu'on tente de diminuer la stigmatisation, ça permet davantage d'en parler, de mieux le connaître, de le documenter de le normaliser.
Oui. On parle beaucoup, et je le disais tout à l'heure, de santé mentale ou de maladie mentale en termes médicaux. Bon, les diagnostics, les symptômes, bon, c'est quoi les causes? Ça pourrait être l'hérédité, entre autres choses. Mais on en parle rarement du point de vue de certains facteurs, entre autres qui pourraient être socio-économiques.
Et c'est important d'en parler, parce qu'effectivement, au-delà des aspects génétiques ou des aspects héréditaires, il y a surtout l'environnement là, dans lequel les personnes vivent. Et on sait que les déterminants sociaux de la santé, les déterminants que sont la pauvreté, l'accès à un logement décent, l'accès à l'emploi, aux études, à des loisirs qui sont pertinents pour les personnes, est importante et sont des facteurs déterminants dans le maintien d'une bonne santé mentale. Et que le fait de ne pas avoir ces éléments-là contribue certainement là, à la diminution là, des facteurs de protection. Là.
Donc, les inégalités sociales pourraient être un facteur de mauvaise santé mentale.
Ils ont un impact direct et il y a des données probantes là-dessus. Vous savez, quand on a une insuffisance de revenus, on risque de se retrouver avec un beaucoup moins grand choix de logement, des logements parfois moins salubres, dans des endroits plus éloignés où on accède à une moins bonne qualité de nourriture, où les liens sociaux ne se vivent pas de la même façon. Et là, où l'emploi est plus difficile à trouver parce qu'on est plus loin des grands centres, etc. Tout ça se tient et a un impact ensuite peut aller jusqu'à l'isolement de la personne ou de la famille donnée et même un retrait social. Là.
Il n'y a pas aussi un impact sur ce que l'on transmet aux enfants qui grandissent dans cette famille-là?
Il peut y avoir, il n'y a pas en soi une ligne directe là, entre sur l'aspect générationnel de la pauvreté ou de la maladie mentale, mais il y a certainement un lien parce qu'effectivement, on a un problème de santé mentale, qu'on va vers la pauvreté, les chances, en tout cas l'égalité des chances pour la génération qui vient sont touchées et on peut se retrouver dans un certain cycle, une continuité là.
Donc, il faudrait pouvoir s'atteler à amenuiser ces inégalités sociales-là. Comment on peut le faire?
Bien, ça prend des politiques sociales qui permettent effectivement d'agir réellement et non seulement d'en faire un discours, mais effectivement d'agir sur les inégalités des chances, sur l'inégalité des revenus. Et c'est difficile de voir, en tout cas dans ce qui se passe depuis les dernières années au Québec, une réelle volonté de l'État de s'attaquer à cette grande problématique qui est l'équité là, au plan là, des revenus. Là.
Ouais. Parce qu'on a l'impression que souvent, lorsqu'il est question de maladie mentale, la responsabilité vient de l'individu ou même de la famille où la maladie se déroule. Mais en fait, ce que vous nous dites, Claude Leblond, c'est que ça vient même, ça vient de plus haut, tout ça.
C'est-à-dire, c'est supporté, il y a une influence importante là, des déterminants sociaux de la santé sur le développement ou le rétablissement également, parce qu'on peut, ouais, on peut être, avoir un trouble de santé mentale, être traité, avoir une bonne insertion. C'est-à-dire, bon, je vous donne un exemple. Là. Je pourrais, moi, souffrir d'une dépression. Je pourrais avoir la meilleure médication, un excellent suivi en psychothérapie, et on sait que ces deux éléments-là ont un impact, et c'est démontré, sur la résolution là, d'une problématique de ce type-là. Mm-hmm. Mais si en sortant de mon traitement, je n'ai pas d'endroit où loger, que j'ai de la difficulté à me nourrir, que je suis préoccupé par la santé et l'éducation de mes enfants, et le paiement de mon loyer, etc., là, j'aurais beau avoir les meilleurs traitements psychothérapeutiques et pharmacologiques, il manque quelque chose. Et on doit agir sur cette base-là. On sait qu'un individu, ça a d'abord besoin de répondre à ses besoins fondamentaux et d'être aussi, d'avoir une part citoyenne également.
Oui, oui, de se sentir utile.
Utile. Utile en fonction des critères que la personne se détermine, non pas en fonction des critères que détermine la société ou l'environnement. Qu'est-ce que c'est être... Et là, on pourrait discuter là, de toute la notion de la performance dans nos sociétés actuelles et comment cette notion de performance a un impact sur beaucoup de gens qui n'arrivent... qui, pour eux, leur contribution à la société pourrait passer, pourrait se faire autrement, être tout aussi importante pour eux et pour les gens qui les entourent. Là.
Oui. Vous avez parlé d'accès aux soins. On peut avoir une bonne psychothérapie, l'accès aussi à des médicaments qui sont efficients pour nous. Mais ça, c'est un autre grand débat en matière de santé mentale. L'accès aux soins n'est pas si... c'est pas si évident.
Non, il est difficile. Il y a une reconnaissance aussi, je pense, par le ministère de la Santé et Services sociaux qu'il faut qu'il y ait des choses qui s'améliorent. Et elles devraient d'abord s'améliorer par, selon nous, par un meilleur accès aux soins de première ligne, autant en santé qu'au niveau des services sociaux. Parce qu'effectivement, si on contribuait à, par une plus grande accessibilité aux services sociaux au Québec et une offre de services sociaux globale et dans tout son continuum, les gens pourraient avoir accès rapidement avant que ne se développe un problème de santé mentale à des services qui leur permettent de retrouver un équilibre dans leur vie. Là.
Oui, parce qu'un diagnostic précoce, une intervention rapide, ça a un réel impact après sur le continuum de la maladie.
Et si on fait le lien avec les déterminants sociaux, si on agit sur les causes profondes, bien là, à ce moment-là, effectivement, en mettant en place des politiques économiques et des politiques sociales qui favorisent le développement des individus, puis leur maintien dans la communauté et leur rapport à la communauté. Et pour ça, il faudrait diminuer la pauvreté.
Oui.
C'est la première chose.
Mais ça se fait pas en claquant des doigts, ça.
Mais ça se fait pas non plus en adoptant des lois qui vont favoriser une plus grande exclusion.
Oui. Est-ce que les campagnes dont on entend parler, notamment beaucoup à la télévision en ce moment, Belle cause pour la cause, j'en parlais tout à l'heure, arrivent à rejoindre les populations plus défavorisées?
Ça, je ne connais pas les mesures par rapport à ce segment spécifique de la population. On sait que les grandes campagnes de promotion et de prévention sont importantes, qu'elles permettent de diminuer la stigmatisation et permettent une meilleure connaissance par la population en général de ce qu'est la maladie mentale, ce que sont les troubles mentaux, ce que c'est qu'une bonne santé mentale et les facteurs qui permettent de la maintenir. Mais est-ce qu'elle rejoint particulièrement les gens qui sont plus démunis ou plus exclus? Je ne sais pas.
C'est que je pose cette question-là parce que je me demande si parfois, sans le vouloir, on est responsable de cette exclusion-là aussi. On veut bien faire, on veut briser le tabou, aller au-devant, lancer de l'information, mais est-ce que nos cibles sont bonnes?
La cible de ces grandes campagnes-là, c'est la population générale. Ouais. Donc, je pense que la cible est bonne. Et par la population en général, et si on rejoint peut-être 80 % de la population, par ces 80-là, il y aura un effet là, de vague qui... parce que ces gens-là connaissent des gens là, qui sont dans leur famille, dans un processus là, de retrait ou d'exclusion, et ils peuvent s'en préoccuper. Là. Donc, sur la prise en charge par les individus ou leurs familles oui. proches de ceux qui sont plus éloignés et certainement aidés par ces campagnes-là. Là.
Et puis maintenant, est-ce qu'il y a un moyen de joindre ou peut-être aussi que l'approche est différente envers des gens qui viendraient de populations plus démunies, moins favorisées?
Mais il y a des organismes communautaires qui ont développé des approches là, qui sont gagnantes et qui sont connues et qui sont sur lesquelles on peut développer, construire, en tout cas pour les rendre encore plus efficaces. Mais pour ça, il faudrait financer adéquatement ces oui. organismes qui ont développé une façon d'entrer en contact avec les personnes qui sont plus exclues et qui ont un trouble de santé mentale. Et c'est à travers ces organismes-là qui les connaissent bien, qui ont développé des façons de faire pour les rejoindre sur lesquelles il faudra miser. Là.
Est-ce qu'il y a du financement ou du moins est-ce qu'il est suffisant?
Il n'est jamais suffisamment là. Il y en a, mais c'est déploré, vous le savez comme moi. Là. Par exemple, quand on parle d'itinérance, il y a une politique là, pour contrer l'itinérance, mais elle devra s'accompagner de davantage de fonds et de pérennité dans l'octroi des fonds pour permettre aux organismes de réellement répondre à leur mission. Et c'est toujours gagnant d'agir rapidement et particulièrement auprès des populations qui sont les plus exclues parce que ce sont eux qui, au bout du compte, demanderont également le plus de services coûteux.
Oui. C'est ça, c'est qu'il y a un impact, en santé, mais économique, social également, à la maladie mentale. Et je pense que c'est une question de société. Tout le monde devrait s'y intéresser.
Oui. Et la maladie mentale ou les troubles mentaux ou les problèmes de santé mentale n'apparaissent pas tout seuls.
Oui.
Il y en a qui apparaissent. Là. Alors, quand on parle des grandes maladies mentales, là, les impacts socio-économiques peuvent être parfois le déclencheur, mais c'est pas la cause en soi. Mais c'est certain que la pauvreté et l'exclusion sont des déterminants importants là, dans le développement de troubles mentaux ou le maintien là, dans cette situation-là, compte tenu de la conjugaison de la pauvreté, de l'exclusion et de la maladie mentale ou des troubles mentaux. Là.
En terminant, Claude Leblond, on revient à votre premier boulot. Là. Vous êtes travailleur social, président de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Et... souvent, lorsqu'on pense à santé mentale, d'entrée de jeu, on va se dire « je vais aller voir un psychologue, je vais aller voir un psychiatre ». On ne pense pas aux travailleurs sociaux, mais ils ont un réel rôle à jouer.
Ils sont nombreux, les travailleurs sociaux, dans les équipes de santé mentale, que ce soit à la fois dans les équipes de santé mentale jeunesse ou auprès des personnes âgées ou des adultes, là, de façon plus large. Ils sont dans ces équipes interdisciplinaires parce que ce qui est gagnant au niveau de la résolution des problèmes de santé mentale, c'est les approches interdisciplinaires qui conjuguent à la fois la dimension médicale, l'apport de l'infirmière, du pharmacien, du travailleur social, du psychologue, pour faire en sorte qu'effectivement, on ne fasse pas que traiter au plan pharmacologique ou psychothérapeutique, mais qu'on allie à ça l'intervention sur les conditions de vie des personnes, sur les liens sociaux qu'ils doivent maintenir, sur le fait d'être heureux d'accomplir les différents rôles sociaux, ça a un impact important dans la résolution des difficultés. Et dans ce sens-là, et pour ces éléments-là, les travailleurs sociaux sont les professionnels sur lesquels on peut compter. Là.
Vous disiez que vous étiez beaucoup, 12 000 au Québec. Bien, on salue tous vos membres, Claude Leblond. Merci beaucoup pour votre passage à l'émission. Ça a été un plaisir.
Un grand plaisir pour moi également.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Benoît Carrière, bonjour.
Bonjour, Mme Paquette.
Vous êtes organisateur communautaire au C3S Lucille Tisdale, CLSC Olivier Guimont. Plusieurs causes à la solitude, à l'exclusion des personnes âgées. J'en parlais tout à l'heure en introduction, notamment, et parfois on n'y pense pas nécessairement, mais notre climat ici au Québec, climat hivernal, oui. La peur de tomber, de glisser, de se blesser, ça peut être une raison qui amène à la solitude chez les personnes âgées.
Oui, comme vous dites, pour les personnes âgées, l'hiver est une saison plus à risque. On sait que, bon, quand on est aîné, c'est une étape de la vie où les capacités physiques diminuent avec l'âge.
Ouais.
Donc, les sorties, les déplacements en hiver sont plus difficiles, voire même hasardeux. Bien sûr, faut être prudent, sortir accompagné si c'est possible. Prendre un taxi dans certains cas.
Mm-hmm.
Mais bon, il reste qu'il y a quand même un certain nombre de personnes âgées qui peuvent sortir. Il reste que la marche est une activité physique qui est bénéfique pour les aînés. Donc, bien chausser, sortir quand il fait beau, prendre son temps. Donc, comme on dit, mettre les chances de son côté.
Oui.
On va rappeler que la mobilité permet aux aînés de maintenir une vie active et que d'avoir une routine de sortie aide à contrer l'isolement.
Oui, parce que de rester actif, c'est quelque chose qui est encouragé, notamment dans le maintien d'une santé globale pour la personne âgée.
Exactement.
Oui. Bon, je parlais de l'hiver, de cette peur de tomber, de se blesser, mais il y a d'autres causes aussi à l'isolement des personnes âgées.
Bon, en fait, on parle d'isolement, la solitude, l'isolement, on peut dire que ce sont des facteurs aggravants. De la perte progressive d'autonomie pardon, chez les personnes âgées.
Mm-hmm.
Au plan psychologique, c'est une situation qui peut se caractériser par une tendance plus accentuée au repli et puis au retrait mm-hmm. de la vie sociale. À ce moment, les personnes ont moins d'intérêt pour échanger avec les autres.
Mm-hmm.
Je dirais que les aînés isolés, on voit, on constate que les aînés isolés peuvent vivre de la détresse et ainsi devenir plus fragiles.
Oui. Je reviens un petit peu. Bon, on parle des impacts et c'est intéressant. Je veux revenir sur les causes parce que je parlais de, oui, bon, on sort à l'extérieur, on a peur de se blesser, mais est-ce qu'il y a d'autres causes que vous observez, un changement de mode de vie ou d'autres choses qui mènent à l'isolement de la personne âgée?
On va se dire, une des principales causes qui peut mener à ça, ce sont évidemment, des problèmes de santé.
Mm.
Certain nombre de personnes âgées développent des problèmes, par exemple, d'arthrose, d'arthrite, qui, on le sait, là, au niveau de la mobilité, ont un impact direct. Il y a toujours moyen de faire la prévention, mais bon, quand c'est une maladie qui est plus difficile à passer, c'est sûr que ça a un impact. Mais à ce moment-là, le CLSC peut donner des services à domicile. Donc, la personne qui est isolé à cause de problèmes de santé peut recevoir de la part du réseau des CLSC des services à domicile et aussi être informé sur les possibilités qu'elle peut avoir pour l'aider pour son soutien à domicile.
Mm-hmm. Quel genre de service, Benoît Carrière?
Bien, le réseau, vous le savez, on donne des services de santé, on donne des services sociaux, dans le sens où si l'état d'une personne vraiment se dégrade beaucoup, on peut penser au centre d'accueil longue durée. Par contre, aussi, on peut penser au centre de jour où la personne peut aller quelques fois par semaine, dépendamment des disponibilités. À ce moment-là, il y a un transport qui est possible, la personne peut être accompagnée. Où ça devient plus difficile, on va dire ça comme ça, c'est quand la personne n'a pas suffisamment de problèmes de santé pour avoir des services du CLSC.
Ah, oui.
Mais il y a quand même certains problèmes qui l'empêchent, mettons, d'être assez autonome, de sortir.
Mm-hmm.
À ce moment-là, on dit que le réseau communautaire peut intervenir. Réseau, d'ailleurs, nous, les organisateurs communautaires, travaillons beaucoup avec ces organismes communautaires en les soutenant ou en travaillant pour qu'ils puissent avoir des programmes leur permettant de maintenir leur prestation de service. Par exemple, livraison de repas à domicile par la popote roulante.
Mm-hmm.
Il peut y avoir aussi, fait par des bénévoles, souvent des appels de sécurité, ou encore, comme on dit, des appels d'amitié au domicile de la personne. Ces personnes peuvent être accompagnées pour des sorties, des rendez-vous médicaux.
Mm-hmm.
Dépendamment aussi, il y a des entreprises en économie sociale qui offrent des services complémentaires d'aide à domicile. Travaux ménagers, pelleter la neige, préparer des repas, des choses comme ça.
Comment on peut être mis au courant de ces services-là pour notre quartier?
Bien sûr, le CLSC est une source d'information. Et là, on met le doigt sur quelque chose d'assez important, justement, la connaissance des services par les personnes âgées.
Rapidement, Benoît Carrière, il reste peu de temps.
On dit que c'est un facteur clé. Donc, les journaux de quartier peuvent être un moyen d'information. S'adresser à son CLSC pour avoir un bottin de ressources, des références. Le voisinage peut être un moyen aussi.
Alors, et évidemment, s'il y a une personne âgée dans notre entourage, ben on l'appelle, puis une petite visite, une fois de temps en temps, peut être appréciée, bien sûr. Benoît Carrière, je le rappelle, vous êtes organisateur communautaire au C3S, Lucie Tisdale, CLSC Olivier Guimond. Merci beaucoup.
Bienvenue, Mme Paquette.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde. C'est Marianne Paquette au micro. Rendez-vous demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.